C'était chouette.
On était avec toute la famille,
tout le monde était là.
Ouais,
c'était chouette. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance. J'étais de l'âge de Mathieu, hein, quand on faisait les vendanges, et mon grand-père avait une vigne. C'était mon grand-père qui s'en occupait toute l'année. Et puis, un jour, c'était la vendange. Et là, je me rappelle, mais on pouvait manger du raisin tant qu'on voulait. Le reste du temps, on ne pouvait pas. C'était rationné. Mais là, le jour de la vendange, on pouvait manger des raisins tant qu'on voulait. On mangeait des raisins toute la journée et on ne mangeait que des raisins. Et on n'était pas malade. Les raisins, c'est pas comme les prunes, hein. Ça fait pas de problème intestinal. On peut en manger, on mangeait tant qu'on en veut. C'était des bio, hein. Et ça faisait, ça, c'était le souvenir que je garde de ces moments-là et des moments de joie, des moments joyeux. On était toute la famille et voilà. Et effectivement, il y avait toutes ces opérations. Et la vigne et la vendange sont associées à la joie. Et il y a plusieurs raisons de cela. C'est associé souvent à la joie de vivre, hein, la joie d'être ensemble, de faire ce travail de vendange. Et on fait du vin. Bon, le vin, c'est, vous le savez, hein, c'est une source, je dirais, artificielle de joie. C'est souvent perçu comme ça. Si vous êtes dans le travail, vous avez un apéritif. Ça m'est arrivé quand je faisais un pot de départ, j'avais fait un apéritif, mais j'avais pas mis de boisson alcoolisée. À tous mes collègues, ils ont fait un petit peu la tête là. L'ambiance ne montait pas. Pour que l'ambiance monte, il faut qu'il y ait un peu d'alcool. Et puis là, tout de suite, tout le monde se détend, tout le monde est content, et les gens se tapent sur l'épaule. Enfin, plus maintenant. Mais ça crée artificiellement un petit peu de la joie, le vin. Et puis, des choses qu'on a complètement oubliées, mais qui étaient une réalité à une époque, c'est que le vin est une boisson potable qui se conserve. Et on pouvait conserver le vin, et ça faisait des réserves de boissons potables aussi. Mon grand-père disait parfois, c'est le temps des anciens, hein, quand il y avait des étés très secs, il disait on a plus de vin que d'eau. Il était content de dire ça. On a plus de vin que d'eau. Lui ne buvait que du vin. Mon grand-père ne buvait que du vin. Il ne goûtait pas à l'eau. Pour l'eau, lui, l'eau, c'était pas pour lui. C'était du vin de 6 degrés, quoi. C'est du vin qui est. Mais c'était son vin. C'était pas des vins de très bonne qualité, mais c'était son vin et il buvait que ça. Et il était très content. Donc il y avait aussi dans le fait d'avoir les cuves pleines, il y avait une certaine assurance également pour passer l'année et pour vaincre la période de sécheresse. Quand il n'y avait pas l'eau au robinet, hein, quand il n'y avait que l'eau du puits, quand le puits était à sec, il n'y avait plus rien à boire. Hein. Dans la Bible, Israël est souvent comparé à une vigne. C'est une vigne vigoureuse qui est plantée dans les eaux, qui prend vraiment des racines, plonge dans l'eau et elle donne beaucoup de rejet. Vous savez, la vigne, c'est une plante grimpante et elle fait des tiges comme ça. Et vous avez peut-être vu ça, ou là. Et ça fait parfois des tiges très très longues, des rejets qui montent comme ça. Et c'était ça. Souvent, Israël est comparé à une vigne de cette façon-là. Peut-être que je vais rester derrière moi.
Non, mais c'est...
Alors on va nous parler ce matin à travers cette vigne et il va comparer encore ce matin Israël à une vigne et il va utiliser la poésie pour cela, pour nous parler. Et c'est important et il va utiliser la parabole et c'est important, il va pouvoir nous parler ce matin de choses qui j'espère vont nous toucher et dont on va se souvenir. Et va nous faire du bien, va nous apprendre des choses. C'est un texte et un passage difficile. Quand on le lit, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme lumière pour moi à travers ce texte. Et la lumière pour nous ce matin, ce sera de comprendre un petit peu mieux qui est Dieu. Qui est Dieu. On va comprendre mieux qui est Dieu à travers tout cela. Alors je vais lire les premiers versets. Chapitre 5, versets 1 à 6. Vous verrez comment ça commence bien. Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Ésaïe, chapitre 5, verset 1 à 6. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront. Et je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. Et Juda, c'est le blanc qui faisait son plaisir. Il avait attendu la droiture et voici l'injustice. De la justice et voici les cris d'accusation. J'ai nommé cette première partie une espérance déçue. Une espérance déçue. Et tout le message, je l'ai appelé l'attente déçue du bien-aimé. Alors, le début du chapitre est très intéressant, la fin est très difficile. On va passer plus de temps sur cette première partie et on passera plus rapidement sur la suite du chapitre. Une espérance déçue. Premièrement, les bons soins du bien-aimé. Ésaïe appelle l'Éternel Dieu son bien-aimé. Son bien-aimé. En effet, Dieu est aimable. Ésaïe aime Dieu. Ésaïe aime Dieu. Le prophète aime Dieu. Et le chant est un chant de Dieu sur sa vigne. Le bien-aimé s'est investi, on le voit. Il a fait un investissement initial pour avoir une vigne. Et cet investissement, c'est faire un mur de clôture, bâtir un pressoir, planter la vigne également, et puis attendre. Il fallait attendre environ bien 3 ou 4 ans entre le moment où on a planté la vigne et le moment où on voit peut espérer voir les premiers raisins. Donc il faut patienter. Et la construction, faire des murs, faire des meteaux, creuser un poussoir, ça se faisait dans le roc. Il faut imaginer des pentes comme ça. Vous savez, c'est dans les coteaux qu'on fait le meilleur vin. Il faut faire des terrasses et les creuser l'endroit où on allait fouler. C'était pas une cuve comme maintenant, c'était creusé dans la roche. On creusait l'endroit et plus bas on mettait la cuve qui allait réceptionner le vin. Donc on pouvait creuser tout ça dans la roche. Beaucoup de travail, un gros investissement. Et je sais pas si vous avez fait de la construction. Mais les pierres, les remuer, la construction, tout ça, c'est quelque chose qui demande vraiment de l'investissement et notre bien-aimé n'avait rien négligé. Alors, on peut retenir de ce passage que Dieu nous a créé dans un but précis. Et il a fait tout ce qu'il fallait pour cela. Dieu voulait une vigne et il a fait tout ce qu'il fallait pour cette vigne. Et si Dieu veut faire quelque chose de nous, il a fait tout ce qu'il fallait et il nous a créés pour quelque chose. La vigne était plantée dans un objectif qu'il avait prévu d'avance. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu nous a créés, nous a donné la vie. Il a un objectif, il a un but et il a tout fait pour que tout se passe bien. Hélas, euh, ça ne s'est pas tout à fait passé comme il a voulu, mais ce qui est beau ici, c'est qu'à trois reprises, il est marqué, il est parlé de l'espérance du bien-aimé. Au verset 2, il a espéré, mais il a attendu qu'elle produirait de bons raisins. Un petit peu plus loin, au verset 4. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais? Au verset 7, il avait espéré de la droiture, et voici l'injustice. Et ce mot espérer, de l'espérance, c'est le mot du croyant. C'est pas le mot qui est associé à Dieu. C'est dans tous les psaumes, celui qui espère, c'est pas Dieu. Celui qui espère, c'est le croyant qui espère en Dieu, qui s'attend à Dieu, qui place sa confiance en Dieu. Et vous avez peut-être des versets qui vous jaillissent comme ça à la mémoire. Moi, j'en ai noté un ici. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation chapitre 3. Donc, voilà que là, c'est Dieu qui espère en sa vigne, qui attend en sa vigne. Vous allez me dire, mais Dieu, il fait toutes choses. Il savait déjà à l'avance que la vigne allait produire du bon fruit quelque part. Et il n'empêche que c'est ainsi que les choses sont présentées de façon poétique, pas de façon dogmatique ici. Si Dieu connaît l'éternité, il est celui qui s'appelle Je suis, celui qui vit dans le présent. Celui qui vit dans le présent. Il ne faut pas donc être surpris de trouver ce mot. Dieu espère en sa vigne ici. Et cela nous parle aussi à nous. Cette attente de Dieu est juste. Il avait fait tout ce qu'il fallait et il pouvait attendre de recevoir quelque chose. Et il y a quelque chose de juste là que Dieu attend. Et si Dieu attend quelque chose de nous, c'est quelque chose de juste qu'il est en droit d'attendre. Et en même temps, il attend, il espère. Il ne contraint pas, il ne force pas. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que jaillissent de beaux raisins succulents. Le plan était succulent. Les meilleurs plants, il les a plantés pour faire des fruits succulents. C'était ces fruits succulents qu'il cherchait. L'attente de Dieu est juste. Et on a vu, la vigne a donné des fruits qui n'étaient pas bons, des raisins qui n'étaient pas de bons raisins. Alors, à qui la faute? Dieu prend à témoin son peuple. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? On ne peut pas rendre Dieu responsable de nos faillites. On ne peut pas rendre Dieu responsable de nos échecs, parce que Dieu, lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire de son côté-là, et il prend Dieu à partie. Moi, j'avais fait tout, j'avais mis de bons plans, j'avais fait la vigne, les gardiens pour la surveiller, j'avais tout calculé, tout planté, tout était prêt. C'était une bonne terre, un bon coteau, une bonne exposition. Il y a dû avoir du bon fruit. Que penser de tout cela? On ne peut pas rendre Dieu responsable de nos faillites. Et on a la réaction de Dieu au verset 5 et 6. Vous avez vu comme c'est sévère. Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je vais la laisser saccager. Pourquoi Dieu a fait ça? Ben, c'est sa vie. C'est Dieu. Et il fait ce qu'il juge bon de faire. Et il est dans ce cas-là, dans son plein droit, parce que la vigne a complètement raté. Elle a manqué l'objectif, et ça ne servait à rien de la conserver pour qu'elle donne de bons fruits, autant que les animaux s'en nourrissent maintenant. Alors c'est sévère pour ceux qui entendaient ce message-là, et c'est peut-être aussi un peu sévère pour nous. On va voir maintenant, Dieu fait ce qu'il veut, on n'a pas, il n'a aucun compte à nous rendre. Il n'a aucun compte à nous rendre. On va voir maintenant deux images parallèles que Dieu emploie. On va lire Ézéchiel, le prophète Ézéchiel au chapitre 15. Donc dans vos Bibles, vous pouvez retrouver ce texte, Ézéchiel chapitre 15, on va le lire ensemble. Vous verrez un autre aspect de l'attente de Dieu. Et on retrouve la même image dans Ézéchiel chapitre 15 d'Israël qui est une vigne. Ézéchiel chapitre 15. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tous les autres bois, que les branches qui sont dans les arbres de la forêt? Tire-t-on de ce bois de quoi fabriquer quelque chose? En tire-t-on un crochet pour y suspendre quelque objet? Au contraire, on le jette au feu pour qu'il le dévore. Le feu dévore ses deux extrémités au milieu, et le milieu finit tout calciné. Serait-il donc utile à quelque chose? Puisqu'on ne fait rien quand il était entier, on n'en a rien fait quand il était entier, on peut d'autant moins en faire quelque chose quand le feu l'a dévoré, l'a calciné. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tout comme je jette au feu le bois de la vigne pour qu'il le dévore, de préférence au bois de la forêt, je jette au feu les habitants de Jérusalem. Je me retournerai contre eux, ils auront beau être sortis du feu, le feu les dévorera. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quand je me prendrai à eux, je ferai du pays un endroit désert parce qu'ils ont été infidèles, déclare le Seigneur l'Éternel. Faire du bois ou porter du fruit. Faire du bois. Alors le bois de la vigne n'a aucune valeur. Israël était comme une plante de vigne au milieu d'une forêt. Est-ce que vous êtes déjà promené, est-ce que vous avez déjà rencontré dans vos promenades des pieds de vigne qui étaient là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Bon. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, chez nous à Villefranche, au bord des chemins, des fois, il y a un pied de vigne qui est là, et à cette saison, il y a des raisins dessus. On se demande, mais est-ce que j'ai le droit de prendre ces raisins? Des fois, j'en ai retrouvé en pleine nature, des pieds de vigne, parce que dans l'ancien temps, il y avait une vigne qui était là, et il reste quelques pieds qui ont survécu, et là, il y a des raisins. Et je vous dis, ça fait quelque chose que de trouver, quand on se promène, des raisins. Le raisin, c'est sucré, c'est rafraîchissant. C'est délicieux. Et ainsi, il voyait au milieu d'une forêt, pour l'Éternel, Israël, c'était un pied de vigne. C'était un pied de vigne. Mais voilà, ce pied de vigne, il était entouré de bois, d'arbres, et il s'est dit, moi aussi je vais faire du bois. Je vais faire comme les autres, je vais faire du bois, et faire des feuilles et du bois. Et il a négligé de faire des fruits. Il ressemblait aux autres. Mais le problème, c'est que le bois de vigne ne vaut rien du tout. On n'en fait rien. Il est dit, on ne peut même pas en faire un crochet dans une maison pour accrocher quelque chose. Il n'a pas de valeur, aucune valeur. La valeur de la vigne réside dans son fruit. Et en dehors du fruit, si elle ne porte pas du fruit, elle ne sert à rien. Elle sert qu'à être mise au feu, simplement. Et on préfère brûler la vigne que brûler les bois. Qui sont à côté, qui vont pouvoir faire peut-être des charpentes ou des choses intéressantes. Faire du bois. Israël en est venu à faire du bois. Et c'était un grave problème. Une autre parabole qui est plus proche de nous. Faire du bois ou porter du fruit. Je vous invite à rejoindre l'évangile de Jean, chapitre 15, beaucoup plus proche de nous, les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus qui va prendre cette même image de la vigne, mais un peu différente. Parce que là, dans ce cas-là, c'est lui qui va être le cep. Et ce qui l'intéresse, c'est toujours le fruit. Et c'est vers le fruit de la vigne qu'on se focalise ce matin. La semaine prochaine, Dieu voulant, on regardera le vigneron, mais là on regarde la vigne. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 1. Jésus parle. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruit, l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, le taille, afin qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester accroché au cep. Et il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Alors, le bon plan, la bonne souche de vigne ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être planté dans une souche pour porter du fruit. Je ne connais pas beaucoup le travail viticole. Mon frère a une treille chez lui, à sa maison, et tous les printemps, il coupe tous les sarments de bois. À la fin de l'hiver, il coupe tout ce qui dépasse avec son sécateur et il la taille. Il fait la taille et il ne reste que le bois, vraiment. Il n'y a que le bois tout griffé là. Après, le printemps arrive et il y a les pousses de vignes qui poussent. Et puis là, on voit après la fleur et l'on voit les petits raisins qui vont commencer à pousser, à venir. Ils sont encore tout petits, ils sont encore minuscules. Mon père, on taille des fois la vigne, sa treille, parce que il y a des raisins qui sont trop à l'ombre et il faut faire de la lumière autour d'eux. Et il enlève des feuilles. Mais le but d'une treille, vous savez, cette vigne montante, c'est aussi de faire de l'ombre. Donc il ne coupe pas toutes les tiges qui ne portent pas de raisins. Il la laisse quand même pour faire de l'ombre. Mais ici, du temps de Jésus, les vignes semblent être des vignes vraiment qui faisaient des tiges, qui faisaient des rejetons. Et ces rejetons, ces tiges, il fallait les couper, il fallait les tailler pour que le raisin puisse être mûri. Et donc le vigneron faisait une taille, je suppose, pendant la croissance de la vigne, et il taillait tout ce qui est... Prenez la sève de la vigne et au profit de faire des tiges, faire des trucs qui allaient s'accrocher plus loin. La vigne est une plante rampante pour avoir des raisins, pour avoir du fruit. Et je ne sais pas si vous avez cultivé les tomates, hein, mais on enlève les gourmandes à les tomates pour avoir de grosses tomates. Je pense que c'était un petit peu le même principe. Alors, dire et voir qu'on est chrétien, c'est très bien. On est chrétien, on est en Jésus-Christ, c'est formidable. Mais le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas l'objectif d'être chrétien. L'objectif, c'est de porter du fruit. On est là pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. On peut venir au culte, on peut lire la Bible, on reçoit la sève, mais le résultat, c'est qu'il doit y avoir du fruit. Le culte, l'instruction, tout ce qui... Et constitue la vie chrétienne, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Le but du vigneron, le but de Père Céleste, c'est d'avoir du fruit, de trouver du fruit et du bon fruit. Et donc, c'est ce qui le poursuit. Alors, les mondages, je suppose que pour la vigne, c'était quelque chose d'assez douloureux. Que c'est quelque chose de douloureux de se voir couper comme ça, de voir la taille qui arrive. Et je pense que pour nous autres, si on veut éviter ces tailles douloureuses, c'est qu'il faut se concentrer sur les fruits que Dieu attend de nous. On n'a pas à se comparer les uns aux autres. Les dons que Dieu nous dispense sont différents. Dans les paraboles, Jésus expose ces dons différents qu'il donne à ses serviteurs. Pour ce qui concerne le fruit, Dieu attend un fruit de nous particulièrement, qu'il a prévu de toute éternité. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, je pense, pour éviter d'être taillé. Et cette taille va jusqu'à couper complètement, le Seigneur l'a dit, à enlever complètement le sarment qui est stérile. Donc, cette importance de porter du fruit, cette importance de ce qu'on appelle les œuvres, revient sans arrêt dans notre texte d'Ésaïe. On l'a souvent rencontré. Et donc, c'est souligné également dans cette parabole de Jésus. Ne négligeons pas cette priorité que de porter du fruit, parce que c'est pour cela que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Et maintenant, le goût du mauvais fruit et la réaction du palais. C'est la fin du chapitre. Est-ce que peut-être vous avez fait cette expérience? On a un beau fruit là qu'on voit devant nous, on va le prendre, on le mange, on se dit, ah, il va être super parce qu'il est beau et tout, et puis dans la bouche, aïe, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit verre comme ça qui sort et qu'on regarde, bah, ou bien il a vraiment mauvais goût, on fait une belle grimace et on va jusqu'à tout rejeter, hein. cracher ce fruit qu'on croyait si bon, dans lequel on avait confiance et qu'on a porté à notre bouche. On a, je pense, tous fait cette expérience-là, c'est une expérience désagréable. Et c'est la suite de notre chapitre. Voyons voir un petit peu ce que cela dit. Malheur à ceux qui courent de bon matin, après les boissons enivrantes. Pardon, verset 8. Ésaïe chapitre 5, verset 8. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel, le maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants, oui. 2 hectares de vignes ne produiront plus qu'un baril de vin et 10 mesures de semences n'en produiront qu'une. Alors Dieu soulève l'injustice au verset 7. Il avait espéré la droiture et voici l'injustice. On ne doit pas avoir le goût de l'injustice. Le goût de l'injustice n'est pas du tout recherché par Dieu pour ses réserves. Ensuite, versets 7 à 17. Pardon. 11 à 17. Malheur à ceux qui courent de bon matin, après les boissons enivrantes, et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. Parce que, peut-être pas votre cas quand même, j'espère. Hein. La harpe et le luth, le tambourin et la flûte, et le vin anime leur banquet. Mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel, et ils ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain enlevé en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés, et sa population est desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion nous descendent, tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner, l'homme sera abaissé tout comme le regard des autels. L'Éternel, le maître de l'univers, sera élevé pour le jugement. Par le jugement, le Dieu saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront là, comme sur le pâturage, et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Alors là, on a le goût de l'oisiveté et de la vie facile des personnes riches, qui est en horreur dans le goût, dans le palais de l'Éternel. Il veut vomir tout cela. Il veut vomir tout cela. Ensuite, au verset 18 et 19, malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot, et qui disent qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous le voyions, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. Ici, on a le mépris de la parole de Dieu. L'attachement au péché sous condition. Oui, Seigneur, je veux bien faire ça. Si toi, je voyais que tu étais comme ça, moi, je voudrais bien t'obéir. Si je pensais que c'était juste ce que tu disais ou ce que tu fais, moi, je voudrais bien le faire. Une obéissance conditionnelle. Ça montre tout ça que la parole de Dieu est méprisée, tout simplement. Verset 20. Donc c'est du mauvais goût tout cela. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alors là, au niveau sociétal, ce qui s'oppose à l'ordre créationnel et qu'on approuve, on a beaucoup dans notre société des choses qui sont contraires à ce que Dieu a prévu. Et puis, on trouve que c'est bien. On s'oppose aux lois que Dieu a instituées. Et ça peut être également au niveau sociétal, ça peut être au niveau privé. La corruption du bien, la confusion entre le bien et le mal. Voilà ce qui a mauvais goût dans la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas les fruits qu'ils cherchent. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. S'appuyer sur sa propre sagesse, sur sa propre intelligence. Voilà qui est de mauvais goût devant l'Éternel. Et ça, c'est proche de nous. Job 28:28. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est être intelligent. Donc, que nous ayons toujours la crainte de Dieu et de ne pas nous appuyer sur l'intelligence que Dieu nous a donnée. On s'appuie sur la crainte de Dieu et on cherche sa sagesse pour être agréable à Dieu. Versets 22 et 23. Malheur à ceux qui sont forts pour voir divin, experts dans les préparations des liqueurs, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. 22 à 23. Investir dans des futilités. On voit ces personnes-là qui étaient devenues experts dans la préparation des boissons. Faire de bons liqueurs, qui ont un bon goût. Et à Villefranche, il y a un club comme ça, ils goûtent les vins. Ils apprennent à savoir distinguer le goût, etc. C'est rien de mauvais en soi, mais si ça se fait au détriment de la recherche de la volonté de Dieu, au détriment de la recherche de la parole de Dieu, si notre investissement se fait dans des choses qui sont futiles, qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'intéresser, mais notre passion, où est-elle? Ce qui nous passionne, ça se trouve où? Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous motive, ça se trouve où? Est-ce que ça se trouve dans la connaissance de la volonté de Dieu, dans la recherche de ce qui est sain, dans la recherche de ce qui est agréable? Voilà les bons goûts que le Seigneur recherche, mais si on s'investit dans des choses qui sont finalement des choses futiles, bah tout ça, ça donne à nos fruits un mauvais goût. Verset 24, on est bientôt à la fin. Voilà pourquoi toute langue. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, de la paille, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Des images que prend Dieu ici pour parler de ce châtiment qui va venir. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le maître de l'univers. Ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent, les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère n'est pas détournée, sa puissance est encore déployée. On voit là toutes ces images qui ont été employées pour le jugement, l'incendie, la pourriture, même jusqu'au tremblement de terre. Mais verset 26, « Il dresse un étendard pour les peuples lointains, et il y en siffle des extrémités de la terre. Le voici qui arrive, avec la rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche, personne ne somme dans les lignes d'or. » Aucun n'a de ceinture détachée, ni de courroie à ses sandales cassées. Il parle des soldats, ici l'image des soldats. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs sont tendus. Le sabot des chevaux sont durs comme de la pierre et toutes les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le lion et le jeune, la lionne, le font le jeune lion. Il gronde, il s'empare de sa proie, l'emporte à un lieu sûr sans personne pour le délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement, pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses, et la lumière sera obscurcie par les nuages. Donc là, on a l'image de ces Assyriens ou Babyloniens qui allaient venir, qui sont des choses très concrètes, des soldats allaient venir ravager la vigne de l'Éternel. Hein, on peut l'actualiser facilement, ce passage-là, je trouve. Hein. Si vous voulez mettre à la place de ces soldats, aujourd'hui on pourrait parler du coronavirus. Hein. Il est là, il étend son étendard, hein. Il est venu d'une extrémité de la terre, il arrive avec légèreté, rapidité. Ce virus, il est venu avec nous avec tellement facilement. Hein. Et puis il résiste à tout, hein, voilà, ses flèches sont affûtées, on ne peut pas le voir, ses arcs sont tendus, hein, on ne sait pas comment s'en protéger. Et il est facile de voir combien l'Éternel peut envoyer des avertissements. Même à nous, aujourd'hui, il peut nous envoyer des avertissements par rapport aux fruits que nous portons. Et donc, toutes ces choses-là sont sérieuses, la parole de Dieu est sérieuse. Alors, le bon vigneron est là, attachons-nous à produire de bons fruits. C'est le conseil que je pourrais donner aujourd'hui. Jacques a préparé des raisins, maintenant on va pouvoir voir s'ils ont bon goût. Hein. Et puis vous allez porter une appréciation sur le goût du raisin. Et que le Seigneur, à travers les fruits que nous portons, il trouve que ces fruits, ils ont bon goût. Ils ont le goût que j'attendais. Ils ont le goût que j'espérais. Voilà la baleine. Quand même dans notre cas. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta patience. Merci pour la façon dont tu nous fais confiance. Et la façon dont nous pouvons, de manière unique et personnelle, te réjouir à travers les fruits que nous portons. Que tu peux trouver à travers ce que nous pouvons porter pour toi, ce que nous pouvons faire pour toi, quelque chose qui te soit agréable à toi, Seigneur. Nous pouvons vraiment te donner de la joie. Merci, Seigneur, de cette confiance que tu nous apportes. Nous sommes tellement rien. Mais là, plantés en Jésus-Christ, nous recevons cette sève. Et cette sève veut nous faire produire du fruit pour ta gloire, pour que tu sois glorifié. Seigneur, fais ce travail en nous, fais monter cette sève vers nous et que nous ne produisions pas des fruits mauvais, mais de bons fruits, Seigneur. Aide-nous à faire la séparation dans nos vies de ce qui est accessoire, de ce qui est essentiel et que nous dirigeons toute cette sève vers ce que tu attends de nous, vers les fruits que tu attends que nous portions, Seigneur, pour la vie éternelle, pour que tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen.